That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apéro. L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There's news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech. Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle apérophonie. Je suis ce soir avec Nina. Et ce soir, nous allons parler de la Nocturne étudiante. Le 27 mars 2019, au Musée de Grenoble, se déroulera donc la Nocturne étudiante, le rendez-vous annuel incontournable de la scène culturelle grenobloise. Cette Nocturne de 2019 est un événement proposé pour les étudiants, par des étudiants et avec des étudiants. Et effectivement, le temps d'un soir, les étudiants vont s'emparer du musée. Au menu de ce soir, de cette soirée, chant, danse, théâtre et encore d'autres types de performances.
Avec nous ce soir, pour discuter de la Nocturne, nous avons Charlotte et Samy qui organisent un projet extérieur. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement ?
Salut, moi je suis content d'être ici. Et, donc on est tous les deux étudiants à l'école d'architecture de Grenoble. Et on propose pour la Nocturne étudiante une performance qui mêle à la fois danse et puis aussi participation des personnes venant au musée. On essaie de entrelacer ça durant la Nocturne. Voilà.
Ok, merci. À côté, nous avons Camille. Camille qui est stagiaire et co-organisatrice de la Nocturne. C'est toi qui fais le lien, il me semble, entre le campus et le musée.
Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je suis stagiaire et donc ça permet... en tout cas, je suis stagiaire avec Eric qui se présentera après sur la Nocturne des étudiants. Donc voilà, c'est une mission qui est renouvelée tous les ans, du coup, avec un étudiant de Sciences Po au musée de Grenoble. Voilà.
Ok, et enfin, Eric, est-ce que tu peux te présenter ?
Tu l'as dit, je m'appelle Eric. j'organise la Nocturne depuis l'origine. Donc c'est un peu moi qui suis le fil conducteur depuis cette année, la 16e année. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais en même temps, c'est un projet qui s'est construit dans le temps. Voilà, et donc je suis animateur aussi au musée de Grenoble et je gère d'autres projets en lien toujours avec les publics et là spécialement pour les étudiants.
D'accord, bah merci beaucoup et bienvenue à tous. Donc, comme tu l'as dit, Eric, c'est la 16e édition de la Nocturne des étudiants. Comment est apparu ce beau projet ?
Alors, au départ, c'était un petit peu l'idée, je vais prendre la formule d'une porte ouverte, si vous voulez, c'est-à-dire donner la parole, la possibilité à des étudiants de s'accaparer le musée et surtout les œuvres du musée, parce que ce n'est pas que le lieu, naturellement, c'est aussi ses œuvres. Et d'en proposer une présentation à d'autres étudiants. C'est-à-dire que la formule est restée toujours la même depuis 16 ans, mais elle a beaucoup évolué de par l'implication des étudiants. Voilà. Et donc la volonté était, de rapprocher la culture, et particulièrement les beaux-arts, la peinture, la sculpture et l'art contemporain, au monde des étudiants. Enfin, je dis le monde, c'est un peu... La formule n'est pas très jolie, hein, mais voilà, c'est-à-dire se dire que les étudiants qui viennent à Grenoble viennent pour un temps parfois un peu court ou plus ou moins long dans le cadre de leurs études, et de dire qu'à un moment donné, le musée peut être attractif, venir faire des rencontres, mais trouver une nouvelle formule. Et c'est cette formule qui a été choisie et qui a été nourrie et qui s'est développée au fil du temps.
Et ah oui, comme tu le disais, Eric, donc les étudiants s'accaparent le musée. Et là, c'est une question que j'adresse à l'ensemble à tout le monde. C'est pourquoi est-ce que c'est important que les étudiants s'approprient finalement le musée et l'enceinte du musée ?
Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Naturellement, moi, j'aurais des éléments à apporter, mais je préfère que vous répondiez peut-être.
Moi, je trouve ça intéressant parce que le musée, c'est de manière générale, c'est un peu fermé. Enfin, on y va. Bon, c'est gratuit, mais on y va et on regarde simplement les œuvres d'art. Et là, c'est une manière du coup d'interagir avec, donc de diffuser un peu l'art et de le réutiliser, même le recycler, on peut dire. Et de voilà, c'est aussi l'occasion de faire des choses qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire pour un événement qui est quand même assez important, qui génère pas mal de monde et voilà.
Tu as dit que c'était assez important. En effet, vous proposez plus d'une vingtaine de médiations culturelles, ou au moins une vingtaine, c'est ça. Le programme est récemment sorti tout chaud. C'est quoi une médiation culturelle ?
Alors, une médiation culturelle, comme on les présente pour la nocturne des étudiants, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc, ça peut être aussi bien des performances que de la musique, que du chant, de la danse. Enfin, ça va être vraiment selon l'imagination des étudiants qui se présentent et qui vont du coup toutes interagir avec une œuvre du musée, mais aussi le thème de l'année. Donc, vu que la nocturne des étudiants fait partie du festival interuniversitaire.
Et qui peut proposer une médiation culturelle, justement ?
Eh bien, tous les étudiants. On invite tous les étudiants, justement, à se présenter, qu'on soit en médecine, en STAPS, ou bien dans les filières plus culturelles ou lettres. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est aussi ça qui fait la diversité de l'événement.
Et la beauté du projet.
Tout à fait.
Et alors, du coup, de votre côté, comment ça se passe ? Vous recevez donc des dossiers de projets et vous faites effectuer une sélection ou comment ça se passe ?
Non, on ne procède pas de cette manière-là parce que ça serait donner un cadre trop officiel, je pense. Et c'est pas comme ça qu'on envisage les choses. C'est de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus horizontale, si je peux me permettre. Mais bon, le terme n'est pas très choisi non plus. Bon, il y a assez tôt dans la journée, donc ça va. Non, c'est-à-dire qu'on fait en début d'année, sur un délai assez court, au mois de janvier, on distribue par des flyers un appel à projet, un appel à participation. On a organisé avec Camille nombreuses réunions. La nouveauté depuis 2 ans, c'est que avant, les réunions se faisaient au musée, donc des réunions d'information. On explique ce que c'est que la nocturne. Donc les gens peuvent s'inscrire sur un projet au travers d'une œuvre, comme l'a expliqué Camille à l'instant. Ça peut être aussi à d'autres niveaux. Par exemple, il y a des bénévoles, il y a des staffs bénévoles qui encadrent aussi l'ensemble de la soirée, qui sont là aussi pour suivre l'évolution, la mise en place des différents projets. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu, à refuser des gens. On évalue ensemble la faisabilité, la pertinence, mais je crois que c'est ce qui est intéressant avec les étudiants, c'est que de même, c'est général de dire ça, c'est un peu dommage, mais de même perçoivent si leur projet tient le choc ou pas. Je dirais qu'il y a une diversité de projets, il y a aussi la diversité du public, c'est-à-dire qu'il y a un public qui va arriver et c'est aussi au public, à un moment donné, d'apprécier, de participer à des propositions et les choses se font de manière assez naturelle. Il n'y a qu'un seul cadre dans lequel on appuie un peu plus, donc l'idée de dossier, comme tu l'as, Antoine, tu l'as évoqué, c'est pour les projets extérieurs, parce que là, c'est vrai que sur les projets extérieurs, puisqu'il y a des médiations qui vont se faire sur ce qu'on appelle l'esplanade, c'est-à-dire la partie gazonnée. Pour ceux qui connaissent le musée, il y a une grande partie paysagée devant le bâtiment. Là, il y a 4 projets cette année qui vont être présentés, et ce sont des projets un peu plus tutorés que ceux qui sont à l'intérieur, parce que souvent, ça demande des structures un peu plus importantes, donc on apporte notamment une aide financière.
Oui, alors c'est ça, parce que du coup, il y a des médiateurs culturels, mais il y a aussi des projets que vous appelez des projets extérieurs. Et donc, si j'ai bien compris, Samy et Charlotte, vous, ce que vous proposez, c'est un projet donc extérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la différence, peut-être même votre projet, ou sans spoiler, hein, mais oui. Présenter un peu votre projet et en quoi il est différent d'une médiation plus classique ?
Et ben du coup, oui, nous en fait l'idée principale c'était comment on peut divertir les gens qui sont dehors, parce qu'en général il y a beaucoup de gens qui attendent, ça peut durer 1 heure, enfin c'est voilà. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Moi personnellement j'avais envie de monter un projet collectif, je venais de rentrer de stage d'année de césure et je voulais recréer un peu du lien avec les gens de l'école. Et du coup, je suis allée à la réunion de Eric, entre midi et 2, comme ça. Et tout doucement, ça s'est créé. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a ? L'école nous dit, on a 2000 ballons de baudruche. Du coup, je me dis, ben, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, une animation du coup participative. Et de fil en aiguille, parler avec des gens, de dire, ah, tu ne serais pas motivé pour ça. Enfin, le projet s'est fait et maintenant, ça prend une tournure que j'aurais jamais imaginée, qu'on n'aurait jamais imaginée. Et enfin, c'est super parce que ça, enfin, ça, ouais, ça prend une dimension qui est assez, assez intéressante, quoi.
Voilà. C'est une vraie aventure.
Ouais, c'est clair.
Et vous, votre projet, du coup, il porte, c'est un mélange de genres ou il porte particulièrement sur une chose, la danse, du chant, une performance théâtrale?
Ben, du coup, c'est, au final, c'est quand même plus de la danse, théâtre, mais c'est un peu compliqué parce que c'est expérimental. C'est vrai que quand on a rempli la feuille, on s'est dit, c'est quoi ce qu'on fait, enfin, mais oui, c'est quand même de la danse parce que du coup, avec ces ballons, on va les distribuer. Les gens vont devoir interagir avec, se les approprier. Et enfin, j'essaye de pas trop en dire. Mm-hmm. Mais du coup, les accrocher sur des personnes qui seront en mouvement et ça va créer quelque chose d'esthétique. Donc, on est plus sur du mouvement, de la danse, mais c'est à la voie de l'animation parce qu'il faut amener tout ce qui va, enfin, amener les gens à participer, quoi.
Ouais, tout en faisant rentrer directement le spectateur qui, enfin, finalement, n'est plus un spectateur, qui devient donc partie intégrante de la performance.
C'est ça, c'est que en fait, nous, la thématique de la participation en école d'archi, c'est une thématique qui unit de plus en plus d'étudiants parce que on a aussi ces problématiques de médiation dans l'école, sauf que il y a une vraie difficulté à communiquer sur l'architecture. Parce qu'il y a une sorte de plafond de verre entre les citoyens et ce qui fait projet dans la ville. Et c'est vrai que la participation, au final, c'est aussi un moyen de médiatiser l'architecture et c'est du coup une question qui est constante dans nos projets. Et donc du coup, Charlotte et moi, c'est vrai que la question de la participation, c'était quelque chose qui nous unissait et on s'est dit, bah, très bien, comment on peut faire participer les visiteurs dans une œuvre qui, au final, est à eux, quoi. Voilà.
Intéressant justement sur le projet de Samy et de Charlotte, enfin, vous êtes là que tous les deux, mais en fait ils sont plus nombreux aussi, c'est qu'au départ c'était vraiment parti sur une idée de structure et enfin vraiment vraiment un travail sur une structure et qu'au final ça a évolué vers quelque chose de plus performance, vraiment comme tu disais tout à l'heure, danse, théâtre, et du coup c'est là qu'on voit l'évolution des projets de notre côté et c'est hyper intéressant de voir ça, il y a vraiment tout un travail avant le résultat final.
Est-ce que vous diriez que la nocturne en fait permet une liberté d'expression, une qualité, enfin une expérience aussi qui peut permettre de proposer des choses dont on n'aurait pas forcément la possibilité de le faire ailleurs, une opportunité.
Je vais prendre la parole, il y a une chose qui moi me semble intéressante d'observer, c'est que comme l'a expliqué Charlotte, c'est au départ on part d'une envie qui parfois est, voilà, c'est comme quand on a envie d'écrire un texte, faire une chanson, enfin j'ai jamais écrit de chanson mais j'imagine, voilà, créer quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une envie, il y a quelque chose qui est flou au départ et puis petit à petit, ce qui est intéressant dans leur projet, c'est que ça s'est fait par le biais d'un regroupement de différentes personnalités, même si c'est au sein de l'école d'archi, qui a eu différentes rencontres avec nous aussi, on a discuté, on a vu l'espace, donc si vous voulez, petit à petit les choses avancent et c'est vrai que depuis un mois que vous êtes embarqué dans cette aventure, hein, je vais dire, il y a une évolution et puis et tous les projets ne se ressemblent pas naturellement dans le cadre de la nocturne. Il y en a qui arrivent avec un projet déjà assez ficelé, il y en a qui viennent avec plutôt donc des envies comme je viens de dire. Et donc nous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi accompagner, donner aussi, transmettre aussi un certain nombre de choses, parce qu'on parlait du musée jusqu'à après. Enfin, c'est quand même le point central de tout ça. Et c'est un biais aussi pour transmettre aussi un certain nombre d'éléments, de choses, de connaissances, de plaisir aussi. À plusieurs niveaux. Donc, c'est des choses qui me semblent quand même intéressantes à mener. Et il y a un cadre expérimental, c'est évident. C'est évident parce que le projet, on l'a tous en tête, on s'est fait des images, vous avez fait, vous, des tests par rapport à ce que vous venez de décrire, Samy et Charlotte, avec ce personnage en forme de ballon. Bon. Et on va voir aussi le soir même. Et je crois qu'il y aura quand même... Camille, tu évoquais le fait qu'il y avait une structure au départ, qu'elle a disparu. Mais je suis persuadé qu'on retombera, vous retomberez sur vos pattes parce que justement, il y aura une expérience, il y a une mise, comment dirais-je, pas en danger, mais vous vous lancez un petit peu vis-à-vis du public. Et ça va être une très, très belle expérience, j'en suis persuadé.
Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on se rend aussi rapidement compte que même si les gens sont vachement intéressés par l'art, parfois, ils ne rentrent pas dans les musées. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu donc, dans l'idée d'avoir des performances artistiques dehors, c'est que du coup, c'est une manière de faire sortir l'art du musée et de l'amener directement vers les gens. Est-ce que c'était un peu ça, l'idée de la démarche aussi ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a eu... Donc, il faut rappeler une chose. Je vais revenir sur des choses un peu plus officielles. Mais la Nocturne est organisée donc, en partenariat avec le Tramway de Miculture, avec la Commu. Donc, il y a plusieurs années, je ne vous donnerai pas les dates, je ne suis pas très bon en date, mais le Tramway de Miculture a voulu fêter une date anniversaire et nous ont proposé une animation extérieure. Et c'est vrai que c'était il y a une dizaine d'années, on va dire, voilà, peut-être un petit peu moins. Et tout à coup, on était sur du théâtre de rue. C'est vrai que l'espace du musée lui-même est contraint par la protection des œuvres. On ne peut pas faire venir de cracheurs de feu ni de jongleurs dans les salles, vous l'aurez compris. En revanche, à l'extérieur, ça permet d'être sur un autre niveau d'expression tout en restant en lien avec l'événement. Et du coup, quand on a vu que c'était, ça ouvrait, comme tu viens de le dire, Antoine, ça ouvrait complètement la Nocturne sur l'extérieur et ça faisait ce lien entre les deux, quoi, l'intérieur et l'extérieur. C'est vrai qu'on a souhaité, c'était un pas de plus dans le cadre de la Nocturne et on l'a gardé depuis parce que vraiment, alors ça a évolué. Avant, on contactait des associations étudiantes, on savait qui menait des projets sur la place grenobloise. Mais à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si c'était la bonne façon de fonctionner et on préfère faire un appel à projet et que finalement, tout le monde ait la possibilité de venir et ensuite, c'est ceux qui arriveront jusqu'à la fin, qui, voilà, ceux qui ont une idée qui se construit, qui se matérialise, qui arrive voilà, à focaliser, à magnétiser un peu un groupe autour de cette idée, qui arrive à présenter vraiment quelque chose ou une installation ou une performance.
Ouais, vous nous donnez un avant-goût là, mais on parlait de la culture hors les murs, même si le musée est aussi un espace propice à la création, à l'inspiration avec les grands espaces et propice aux médiations culturelles qu'on va découvrir mercredi prochain. Quelles sont d'ailleurs les médiations culturelles prévues dans les grandes lignes, hein, évidemment, sans en dire trop?
Alors, dans les grandes lignes, on va avoir beaucoup de projets en fait assez calme et reposant, si je peux dire, parce que le rêve a inspiré beaucoup de projets dans ce sens-là, parce que le thème du coup de l'année, c'est rêve, je ne sais pas si on l'avait précisé.
Ouais, on va en parler un petit peu.
Voilà. Donc on a eu plusieurs projets, comme toujours, autour de la danse. Cette année, on a aussi beaucoup d'installations, donc là, qui vont être vraiment dans tous les genres, et il y en a certaines qui sont plutôt très, très intrigantes. Bon, on n'a pas encore tout vu, mais ça va être plein de surprises. On a aussi, comme on disait tout à l'heure, des choses plus interactives, plus participatives. Donc que ce soit des jeux ou par exemple le projet de Samy, de Charlotte et de leur groupe. Donc voilà, ça va être assez diversifié comme d'habitude. Voilà.
Bah justement, c'est peut-être l'occasion de parler du thème de cette année, donc le rêve. Qu'est-ce qui vous inspire personnellement, chacun votre tour ?
Ah ouais. Je vais commencer.
J'espère qu'il vous inspire quand même quelque chose.
Oui, bien sûr. Nous, on s'est demandé jusqu'où en fait les gens étaient prêts à aller pour leurs rêves. Et ça a été un petit peu, à un moment donné, le fil rouge de notre narration, même si ça a évolué hein, avec la manière dont on a brainstormé et tout, ça a un peu évolué. Mais vraiment, au début, on se demandait comment on peut. Comment on peut faire considérer qu'on est capable à un moment donné de se mettre un mur sur un rêve, de se dire ah ouais mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, je rêve trop grand, faut que je sois plus rationnel et tout. Et on se disait que ce projet, ce serait aussi l'occasion aux participants de briser ce mur. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée.
Donc c'était une vision un peu le rêve concret, le rêve comme l'aboutissement de quelque chose. Donc pas un rêve abstrait tel qu'on pourrait l'entendre, comme un rêve endormi.
Oui.
Après, je reprends la parole. Moi, je ne suis pas porteur de projet dans le cadre de la Nocturne, c'est moi qui organise la Nocturne. Donc, si vous voulez, je peux peut-être me faire l'écho de ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qui va être présenté ce soir-là. Et par rapport à la difficulté du thème du rêve, c'est que justement, comme tu le dis, c'est complètement abstrait. On a chacun un point de vue complètement subjectif sur cette question. Et ce qui va être intéressant, c'est justement d'aborder, dans le cadre de cette Nocturne, toutes les formes qui vont lui donner forcément une forme concrète, parce qu'on la matérialise par des ballons, par, par un lit, pour pas trop dire de choses, ou par un imaginaire. Des sons vont transporter les gens vers un imaginaire, des ambiances aussi. Donc c'est en effet cette transmission du rêve va se faire. Moi, j'aime bien dire aussi que la frontière entre le rêve et le cauchemar, elle était floue, hein, pour moi. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a des projets qui vont dériver un petit peu aussi, en donnant un point de vue un peu plus large, cette notion de rêve, pour aborder aussi l'idéal. Voilà, ça va être différentes notions qui vont nous permettre de décoller, on va dire, dans notre imaginaire, ou au contraire d'aborder la question du réel en vis-à-vis avec cette question du rêve, justement. Si on parle de questions de société, par exemple, voilà, il y a un peu peut-être un idéal, une société idéale à construire, et quel en est les ressorts actuels. Bon, c'est un peu large comme débat, ça paraît très très sérieux, mais c'est abordé de manière très ludique et inventive dans le cadre de la nocturne.
J'imagine qu'il faut trouver un thème aussi qui parvient à contraindre sans bloquer l'inspiration, donc diriger, mais tout en ayant une liberté, et on la voit d'ailleurs, cette liberté, dans l'offre de propositions de médiation culturelle qu'il y a pour la semaine prochaine.
Mais alors, est-ce que... moi, ce que je me suis posé, la question que je me suis posée en voyant le thème, le rêve, c'est pourquoi, pour cette édition, le rêve ? Est-ce que c'est parce que l'idée n'était jamais apparue avant, ou est-ce que c'est parce que choisir le rêve comme thème était particulièrement important cette année? Ah.
Non, juste, il y a le petit temps, c'est parce qu'on se regarde dans les yeux pour savoir qui va répondre, je ne sais pas si vous voulez répondre, mais juste une chose sur la question du rêve. Si vous voulez, la nocturne des étudiants est donc apparue il y a quelques années en arrière, et l'université a pris l'initiative d'organiser une semaine des cultures interuniversitaires. Et c'est eux qui proposent le thème, d'accord ? Donc au départ, la nocturne ne partait pas d'un thème. Elle partait simplement vraiment de la collection des œuvres, permettre à des étudiants d'entrer dans le musée, d'avoir peut-être une présentation un peu différente qui rende les œuvres différemment accessibles. D'accord ? C'est pour ça que je n'utilise pas trop le terme de médiation culturelle. On parle plutôt de médiateur d'un soir, de médiatrice d'une soirée. On va mettre ça au féminin aussi. C'est très, très important. Et si vous voulez, cette question du thème, l'année dernière, on a eu l'infini, on a eu à l'envers, on a eu au poil. C'est intéressant parce que tout à coup, vous entrez dans un musée et vous dites, vous répétez ce mot dans votre tête, par exemple le mot rêve, et vous ne regardez que les œuvres qui vous intéressent en lien avec ce thème-là. Et du coup, ça ouvre des voies. C'est assez étrange. Enfin, moi, je trouve que c'est assez... Moi, je suis médiateur culturel, pour le coup, au musée. Et c'est vrai que tout à coup, de retraverser les salles que je connais assez bien quand même, hein, mais au travers de ce point de vue-là, Ça permet de revoir les choses différemment. C'est-à-dire que finalement, le pire, c'est d'arriver et de regarder les choses sans avis, sans point de vue, sans angle d'attaque. Et je trouve que cette idée... comme tu le disais, Nina, rêve, parce que c'est un rêve au sens large du terme, hein, c'est propre aussi, naturellement... au musée, à la culture, à ce qui va se passer pendant une semaine, dans les différents lieux qui sont proposés dans le cadre de ce festival. Donc c'est un thème porteur. C'est sûr que les thèmes sont choisis au travers de ce choix-là. Voilà. Alors, c'est vrai que l'année où c'était au poil, c'était un peu étrange, c'était loufoque. Moi, j'ai adoré le thème à l'envers, par exemple, qui était très très complexe à développer. Mais justement, le thème donne un là, si je dirais, à cette réflexion et aux œuvres qu'on va choisir. Voilà.
Et bien, sur ces douces paroles, il est temps de faire une petite pause musicale. On écoute Attic Lights, Love in the Light of Shark Attack. I can dance.
Et nous sommes de retour pour cette apérophonie sur Radio Campus. Nous sommes toujours tous ensemble pour parler de la nocturne des étudiants qui aura lieu la semaine prochaine. Tu disais, Eric, que revoir des œuvres qu'on connaît peut-être avec un nouveau paradigme, en l'occurrence celui du rêve cette année, ça permettait de les réinterpréter. Donc c'est finalement leur donner un nouveau sens. Mais est-ce que ça peut être aussi aider des gens qui ne sont pas forcément des habitués du musée à mettre les premiers pas dans l'univers de l'art et du monde des musées? C'est une question qui s'adresse à tout le monde, d'ailleurs.
Oui, je ne suis pas le seul légitime à répondre à cette question. Je pense que Camille a envie de dire quelque chose.
Oui, non, mais ça c'est évident. Et c'est un travail, en tout cas, qui est... Enfin, moi, de ce que j'observe en tant que stagiaire au musée, c'est un travail qui est vraiment mené. Et il y a vraiment une réflexion qui est menée là-dessus avec tous les personnels du musée, que ce soit les animateurs ou la communication. C'est vraiment une question qui est importante, savoir comment est-ce qu'on fait venir les gens au musée une première fois, mais surtout comment est-ce qu'on les fait revenir. Donc la nocturne des étudiants, il m'a semblé que c'était quand même aussi dans cet objectif de d'abord faire venir les étudiants qui n'étaient jamais venus au musée, et puis leur donner aussi le goût de revenir, leur donner le goût, leur dire que bah oui, le musée c'est pour tout le monde, et que du coup on peut avoir une première approche, justement, que ce soit par une interprétation comme la danse, la musique, etc. Mais aussi, derrière ça, ben voilà, il y a toutes les collections du musée qui sont vraiment hyper, hyper riches à Grenoble et qui sont vraiment à découvrir, que ce soit vraiment de l'art ancien jusqu'à l'art contemporain. Donc voilà, ça, c'est vraiment un travail qui est fort avec la nocturne, je pense.
Doux mélange entre le passé et le présent pour faire revivre ou vivre, en tout cas, les murs du musée.
Pour rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, cette idée du temps passé, ce qui est génial sur cette collection, c'est que on peut traverser, alors naturellement toutes les collections ne sont pas parfaites et celle de Grenoble non plus, mais c'est vrai que c'est une très très belle collection. On peut traverser l'art du XVIIe, du XVIIIe siècle, mais sur la collection XXe, elle est très très importante, et jusqu'à l'art contemporain. Il m'a toujours semblé que cet éventail très très large dans le temps, avec sur l'art contemporain des questions beaucoup plus de société, qui nous touchent plus particulièrement et qui font réagir en général plus souvent, de manière plus rapide et plus instantanée le public, donne cette vision, c'est-à-dire que on peut voir une œuvre minimaliste et puis revenir sur une œuvre du XVIIe siècle, et ce parallèle va se nourrir aussi. Voilà, y a un dialogue qui se passe entre les œuvres déjà au départ. Voilà. Et ensuite, il est nourri naturellement par les étudiants qui vont peut-être imaginer quelque chose à partir d'une œuvre contemporaine. Et puis au final, on se rend compte que ce qu'ils ont proposé, ça peut très très bien fonctionner sur une œuvre du XVIe ou du XVIIe siècle. Et du coup, il y a un jeu de renversement un petit peu et de réactualisation du regard, du point de vue. Et ça redynamise un certain nombre de choses. C'est important.
Et justement, les étudiants, parlons-en, ils ont été nombreux à candidater à cet appel à répondre à cet appel à projet pour la nocturne.
On a une édition donc, qui va se dérouler donc, la semaine prochaine, qui est en termes de mobilisation la plus importante de toute l'histoire de la nocturne, puisque ça représente à peu près 250 étudiants qui vont de près ou de loin. Enfin, je dis de loin, c'est pas très gentil, mais c'est vrai que quand on est staffeur, on est peut-être moins impliqué que quand on construit un projet en tant que médiateur. Mais ça représente quand même une quantité, un nombre important d'étudiants. Voilà, c'est à la louche 250, mais c'est 254 ou je ne sais plus vraiment. Mais...
La liberté qui est accordée au projet étudiant, elle est totale ou ils doivent justifier un peu quand même le rapport au rêve, pourquoi ça rentre dans le thème, ou est-ce qu'on est censé le deviner nous-mêmes, ou quelle est la liberté accordée au projet?
Pour notre projet, du coup, c'est vrai que, en fait, au tout début, on était sur quelque chose de plus spatial, comme on l'a dit. Et en fait, le thème du rêve, on s'est rendu compte que ça collait parfaitement avec cette idée de participation. Parce que l'idée, c'est qu'on va amener, en fait, la participation en parlant du rêve, justement, en disant est-ce que toi, t'as encore des rêves? Est-ce qu'on a encore la place de rêver dans ce monde? Et du coup, est-ce qu'on peut ou pas, enfin, est-ce qu'on peut, on pourrait pas avoir un rêve commun, quelque chose, du coup, ça serait symbolisé par les ballons, le rêve est symbolisé par le ballon. Et du coup, comment la somme de tous ces rêves, de toutes ces actions, fait une œuvre, du coup, parce qu'en fait, notre œuvre, elle existe que si les gens participent. Donc voilà.
Par rapport au projet, l'évolution des projets, hein, c'était bien ça la question. Je commente pas ce qui se passe
dans le
studio, il y a une panne de micro. Donc ça a un peu perturbé Charlotte dans sa réponse d'ailleurs.
Oui, je suis désolée.
L'idée, c'est quand même d'accompagner les étudiants. Et quand je dis accompagner, c'est qu'on se met tous autour d'une table. Tous les porteurs de projets présentent leur projet à l'oral au départ. Et c'est un peu, si vous voulez, une table ronde. Une table ronde avec les gens qui sont des bénévoles. Camille ici présente aussi en tant qu'étudiante. Donc l'idée, c'est de déguiser un petit peu les idées, les principes de départ. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a qui arrivent avec des idées très très construites, qui connaissent la nocturne. Donc finalement aussi, il y en a qui anticipent largement. Le thème est diffusé quelques mois en amont. Il y a d'autres personnes qui ont des projets sur lesquels ils ont moins l'habitude de s'impliquer. Donc là, on a un rôle, il me semble, très très important. Mais je crois que c'est dans le temps, au fil de la conversation, de la discussion, des choix d'œuvre, de la pertinence, on le sent tous, cette matière, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui arrive, qui émerge. Et tout à coup, quand on a mis le doigt là-dedans, après, les choses vont se faire parce que l'énergie se développe, enfin, les idées également. Parler d'énergie, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a cette notion d'énergie. Et donc, il y a tous les ans des gens qui nous approchent, c'est vrai, qui disent « Ah, c'est quoi la nocturne ?» qui ouvre un peu, qui entrouvre la porte, hein, c'est une manière un peu de métaphorique de parler de ces réunions. Et puis qui à un moment donné disent « Non, on le sent pas, on se retire ». Mais ce qu'on a mis en place, c'est, des réunions, des concertations qui permettent aux gens de venir, de se rendre compte par eux-mêmes si leur projet, ils ont envie de le mener jusqu'au bout ou pas. Et voilà, c'est chaque année, ça se passe de cette manière-là. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de réelle censure. Il y a des dispositions que, grâce à notre directeur qui soutient de manière vraiment très très forte ce projet depuis des années, parce que sans son soutien la nocturne n'existerait pas. On décroche des œuvres, on a fait même des accrochages spécifiques, notamment l'année dernière, c'est moins le cas cette année parce que les demandes sont un petit peu différentes, mais il faut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de mouvements au sein du musée pour permettre aux étudiants de pouvoir accéder à cet espace et que cet espace corresponde à ce qu'ils souhaitent. On a eu dans le par le passé, puisque du coup, je ne dévoilerai pas trop ce qui va se passer la semaine prochaine, mais par le passé, il y a eu des actions qui ont été, un peu plus loin que la normale. On a eu comme ça des gens qui, le rapport au corps, par exemple, on a eu des gens qui étaient nus dans les salles, on a des gens qui ont scandé aussi des discours, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait pas forcément de manière violente, qui se fait de façon pensée, construite. Donc voilà, c'est comme au théâtre, dans les spectacles de danse, il y a parfois des partis pris qui sont revendiqués, qui sont assumés, et c'est le cadre aussi de la nocturne.
Et parlons-en justement des éditions passées, peut-être, parce que la nocturne étudiante, ça fait 16 ans, il me semble que ça dure. Comment se passe la nocturne généralement et qu'attendez-vous pour l'édition de cette année ?
Je n'ai pas forcément compris la question. Parce que sur l'historique, si tu veux, Nina, c'est vrai que la première nocturne, on était deux pour accueillir les étudiants. Il y avait 466 étudiants, ce chiffre, je l'ai vraiment en tête. Il y avait des étudiants qui étaient dans le musée avec parfois un bout de papier. Parfois, je me souviens, il y en avait un qui a participé pendant plusieurs années à la nocturne, qui était devant les œuvres, mais finalement, il n'avait pas tant étudié les œuvres que ça, parce qu'on était parti sur une forme assez classique. Au départ, on imaginait que des étudiants, face à une œuvre, ils vont s'intéresser un peu à l'histoire de l'art. Et puis finalement, au fil en aiguille, les choses, on s'est rendu compte que ce que disait Camille tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous les publics. C'est-à-dire qu'on peut avoir des étudiants en géologie qui vont s'accaparer d'une œuvre qui représente des montagnes au 19e siècle et qui vont parler de géologie. Et tout à coup, ça ouvre d'autres champs, si vous voulez.
Mais seulement les étudiants, du coup, ou les spectateurs, n'importe qui peut venir, c'est universel ou c'est vraiment propre aux étudiants et pour les étudiants?
Alors, c'est le slogan que Antoine a repris en ouverture, hein, c'est un événement qui est créé par les étudiants et on a tendance à dire pour les étudiants, parce que la grande majorité des gens qui vont venir à cette nocturne sont des étudiants, parce que c'est tout ce travail qu'on a mené depuis des années. Je dirais comme ça, à la louche, 85% des gens qui viennent à la nocturne sont des étudiants. Ça dépend des années. Il faut savoir que notre communication, donc la communication, on n'a pas des places à offrir à tout le monde. Il y a 65 000 étudiants, je crois, sur la région grenobloise, le bassin grenoblois. Donc nous, on est plutôt sur des fréquentations autour de 3 000-3 500 personnes en 4 heures, ce qui est quand même énorme, avec un taux de fréquentation des étudiants qui est important. Donc notre communication est essentiellement basée, comme par exemple ce soir, à Radio Campus, donc c'est une radio étudiante. Donc on est présent sur les lieux étudiants. Si on commence à ameuter un peu tout le monde, on passe sur autre chose. On passe sur un festival qui va durer 3 jours. Il y a des propositions qui plairaient énormément à d'autres publics, c'est d'autres types de publics. Mais voilà, on s'est donné un cadre. Alors, on contrôle pas les entrées. Hein. Si vous arrivez, que vous avez des cheveux un peu gris, même je sais qu'il y en a qui les ont déjà jeunes, mais voilà, comme moi par exemple. Enfin, je suis pas jeune, mais j'ai déjà des cheveux un peu gris. On peut rentrer. On peut entrer. Et il y a même des gens qui sont très très fidèles à la nocturne parce que pour eux, c'est une mine d'inspiration, une mine d'idées. Et moi qui suis animateur, je peux vous dire aussi, il y a des choses qui m'ont redynamisé, qui m'ont fait voir les choses différemment et penser la médiation de manière différente. Donc ça reste ouvert, mais voilà, c'est un événement gratuit. Qui est complexe à monter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ouvrir non plus complètement à tout le monde.
Et du coup, c'est vrai que ça devient un formidable vivier de création parce que ce que je comprends un peu de tout le projet, c'est que ça permet aussi à des gens qui ne sont pas forcément des artistes de devenir des artistes, en tout cas de devenir des artistes d'un soir. C'était un peu ça aussi l'idée. Je sais pas, peut-être que c'est comme ça que vous l'avez vu, vous, Samy et Charlotte.
Nous, on est des artistes.
Non, mais c'est vrai que, cela dit, l'architecture est totalement un art, mais de devenir finalement des artistes de performance, en tout cas.
Oui, non, mais carrément, parce que moi, j'ai jamais fait de danse et ça m'a toujours intéressée. Et du coup, là, ça prend une tournure. On a dû oublier un peu qu'on était des architectes. Et c'est vrai que c'est un peu un tremplin parce que, ouais, je me dis qu'on peut, expérimenter des choses. Et du coup, on a l'impression d'être des artistes un peu. C'est cool.
C'est sûr que c'est un terrain de jeu, la nocturne. On pourrait reprendre toutes les nocturnes depuis l'origine, les nombreux projets, on va compter une vingtaine de projets sur 16 années, vous imaginez le nombre de projets, c'est phénoménal. Après, Antoine ou Nina, ou même Charlotte, ou Camille, c'est aussi se poser la question de ce que les étudiants viennent chercher dans la nocturne. Alors, les spectateurs, c'est plus facile parce qu'il y a les spectateurs opportun qui va passer devant le musée, il va voir de la lumière, du monde, il va rentrer, mais bon voilà, l'étudiant qui veut venir, mais je crois que ça va être le cadre de votre micro la semaine prochaine de la nocturne, il y a ce que je perçois, c'est qu'il y a eu des étudiants, ça a été un tournant important pour eux. J'ai des exemples comme ça en tête, d'étudiants qui étaient en art du spectacle, sur un moment un peu flottant, ils n'étaient pas trop sûrs de ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient poursuivre leurs études. Le cadre d'études ne correspondait pas à ce moment-là complètement à ce qu'ils attendaient. Et la nocturne leur a permis, j'ai deux exemples en tête, je ne vais pas les citer parce que voilà, mes deux garçons, qui, une fois qu'ils ont participé une année à la nocturne, puisqu'ils ont participé, je crois, 2 ou 3 années d'affilée, leur voie pour eux était toute tracée, c'est ce qu'ils m'ont dit ensuite. Donc, C'est l'outil musée, mais c'est surtout la nocturne et surtout la rencontre avec le public, le fait de monter un événement. Puis bon, c'est quand même un bel espace. Donc ça permet aussi de bien mettre en valeur les projets. Et il y a parfois aussi, comme tu le disais Antoine, des gens qui sont très très loin du monde de l'art et qui justement, ceux-là, on les cherche particulièrement quand même, il faut dire. Parce que les gens du monde de l'art, finalement, ils ont déjà un regard, une démarche qui est convergente par rapport à la question de l'art. Mais des gens qui vont venir d'autres filières ou qui ont un autre parcours, parce que je ne vais pas concentrer les gens ou les parquer dans leur filière. L'exemple de la géologie était peut-être pas le plus pertinent et puis il n'est pas fondé vraiment sur un exemple concret, mais ça peut être un exemple. Ça peut être un exemple d'éléments, de rencontres, où on fait parler l'œuvre aussi et du coup, on dialogue avec elle et avec le public.
D'accord, parce que comme tu l'as précisé, Eric, effectivement, Radio Campus sera présente pour cette édition. On fera du reportage sur place. Comme ça, vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'assister à l'événement, vous pourrez retrouver la vie de l'événement à l'antenne de Radio Campus. On va se faire une petite pause musicale tout de suite. On va écouter Olympic Girls de Tiny Ruins. Et on se retrouve tout à l'heure.
stirring, shaken, all of us waking under the same cover of sky. You said my freedom feels like a white lie. Sweet on the back seat, another day bolder. A love spell rushes you by, the smoke and the smolder. We were only inches away, still had a long, long way to go. Yeah, we were only inches away, still had a long, long way to go. Weren't we born feel the muddy banks swell? I think of you on the dance floor in a stuccoed motel. Find a thing if you can't lose yourself. Every once in a while I looked for your figure, the cut your shape would make, in the freedom of a microphone. There's a shadow I can't shake.
Et c'était Olympic Girls, nous sommes toujours sur Radio Campus 90.8. Un bref rappel pour reprendre l'émission, comment se déroule la soirée du 27 mars? Camille, par exemple, si tu souhaites nous expliquer le programme.
Oui, alors la soirée du 27 mars, elle va se composer en plusieurs temps. Donc déjà, la grande nouveauté par rapport à l'année dernière, on ouvrait à 20h avant, cette année on ouvre à 19h30. Et la raison du coup d'une ouverture un peu plus tôt, c'est qu'on a une super surprise musicale qui aura lieu à 8h moins le quart, du coup dans la galerie centrale. Donc c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir dès l'ouverture et à profiter de tout ça. À 20h, on va pouvoir profiter de toutes les médiations dont on a parlé tout à l'heure, donc dans toutes les salles du musée, à l'extérieur, ce sera installé aussi dès l'ouverture. Et à 23h15, comme d'habitude, on a un concert final qui sera assuré par un très très grand nombre de musiciens. Donc ça va être assez grandiose et je vous invite à venir voir ça et à profiter de cette surprise.
Tout à fait. On sera là. et oui, et on rappelle donc que l'événement est gratuit, hein, parce qu'on l'a pas, je crois pas qu'on l'ait dit, en début, mais c'est important de le préciser.
Si vous croisez Eric, il faut lui donner 50 euros.
Si vous croisez Eric, il viendra vous charger. Faudrait peut-être que tu te balades avec une pancarte, un truc comme ça.
Oui, en homme sandwich.
Exactement. Mais. Et d'ailleurs, du coup, c'est important, effectivement, il faut inviter les étudiants à rentrer dans le musée. Et alors, moi, ce que je me faisais la réflexion, c'est que, en fait, je savais pas ce que c'était un médiateur culturel avant de préparer l'émission. Et est-ce que tu peux faire un expliquer ce que c'est un médiateur culturel, par exemple, à quelqu'un qui n'est en aucun cas connecté à ce monde-là?
Déjà, je vais donner un point de vue personnel, c'est que l'appellation, je la trouve un peu étrange, quand même. Médiateur culturel, médiateur. Moi, quand voilà, c'est alors, pour répondre à ta question plus rapidement, si tu veux, c'est que ça fait partie des métiers assez récents finalement. C'est-à-dire que on appelait ça guide conférencier. Ça dépend de quelle structure culturelle on est, mais médiateur culturel, si on peut donner une définition, c'est quelqu'un qui va transmettre du savoir, qui va transmettre des connaissances. C'est pas le cadre d'un cours, donc ça peut se faire de différentes manières, ça peut se faire de manière proche, plus proche de l'animation, on va dire, mais avec un contenu scientifique. Et un bon animateur, une bonne animatrice, c'est quelqu'un qui saura aussi s'adapter au public, parce qu'on travaille beaucoup avec les enfants au musée de Grenoble toute l'année aussi, par exemple. On travaille avec tous les publics, hein, je vais pas les citer là maintenant, mais c'est quand même la nocturne, c'est un point d'orgue par rapport à la focale étudiante, mais le musée ouvre ses portes toute l'année et travaille avec tous les publics. Donc le médiateur culturel, voilà, c'est on va dire qu'il y a 30 ans en arrière, c'est une appellation qui n'existait pas. Les musées vivaient peut-être par eux-mêmes, les gens venaient et appréciaient les œuvres ou pas. Donc c'est une façon de nettoyer le musée, de le dynamiser, le moderniser, et puis se rendre compte que la culture prend une place centrale aussi dans nos préoccupations, dans notre vie personnelle, dans notre vie de société, et que finalement il y a des acteurs qui ont un rôle à jouer, ce sont les médiateurs culturels.
Et aussi les étudiants qui participent peut-être là pour cette occasion-là. Samy et Charlotte, vous êtes d'accord pour dire que le musée et cette nocturne est finalement une manière de casser les codes, de désacraliser l'espace du musée et de rendre la culture accessible à tous?
Tu veux... Oui,
je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que... Il y a un petit peu, comme on disait, cette illusion élitiste qu'on peut avoir dans un musée, dans le cadre d'un musée. Et le fait d'avoir, que Eric donne les moyens de communiquer sur cette illusion et de dire, bah non, en fait, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, on n'est pas du tout, c'est pas du tout notre volonté d'être dans ce type de configuration. Et, du coup, là, la médiation, elle a un rôle hyper important, c'est justement de briser ce mur-là. Et du coup, c'est d'établir le dialogue, peu importe la manière dont on le fait. Ici, on le fait dans le cadre d'une nocturne où il y a des projets qui vont re-questionner l'art ou re-questionner la manière dont on conçoit l'espace en soi du musée. Mais du coup, ici, il n'y a pas de dialogue, en fait, on ne peut pas faire comprendre ces choses-là. Et c'est là où la médiation est hyper importante au final. Je sais pas si tu voulais rajouter.
Oui, c'est ça crée du lien, juste parce que médiation, ça fait, pour moi, c'est diffuser des choses, donc et même au sein de notre groupe, au final, ça a créé du lien. Comme je disais, moi, je rentrais, ça fait longtemps que j'étais pas à l'école, et le fait de porter ce projet, ça a créé du lien dans l'école, on s'est retrouvés pour en parler, et pour moi, c'est aussi ça, c'est du coup une diffusion un peu d'idées.
Et est-ce que vous arrivez à toucher à un ensemble vaste d'étudiants, ou c'est souvent les personnes dans les mêmes filières, les filières un peu plus culturelles ou un peu plus littéraires ou sensibles à ces questions, ou alors des étudiants qui fréquentent déjà de toute façon le musée, ou est-ce qu'on arrive à ratisser large, pardonnez l'expression mais...
Alors, de ce que j'en ai observé, moi, c'est vrai que globalement, c'est quand même beaucoup les mêmes filières qui vont venir... Enfin, les filières qu'on peut imaginer plus culturelles. Mais cette année, c'est vrai qu'on a observé qu'il y a beaucoup d'autres filières qui se sont rapprochées, et plutôt de manière importante. Là, cette année notamment, on a beaucoup d'étudiants ingénieurs qui nous ont rejoints dans l'équipe, notamment l'équipe du staff ou même en médiation. Donc, du coup, ça, c'est vrai que ça commence à, je pense, à prendre un petit peu, en tout cas sur Grenoble, le fait qu'on essaye de, bah, d'aller s'intéresser à d'autres publics. Ce que disait Eric tout à l'heure, c'est qu'on a fait des réunions d'appel à participation dans plusieurs lieux, donc en dehors du musée. On est allé, bah, on est venu à Ève, mais on est aussi venu dans les écoles d'ingénieurs, dans la BU Sciences, etc. Et donc, ça permet aussi de faire un premier lien et de se rapprocher de publics qu'on pense. En tout cas, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais en tout cas, des publics qu'on pense qui ne viennent pas au musée, en tout cas qui ne viennent pas à la nocturne.
Il y a une chose aussi qu'on peut constater. Bon, pour vraiment répondre à ta question, il faudrait qu'on ait vraiment une étude précise, voilà. Mais il y en a eu une étude il y a plusieurs années. On s'est rendu compte que d'abord il y avait entre 30 et 40% d'étudiants qui mettaient les pieds pour la première fois au musée dans le cadre de la nocturne. Donc ce qui est énorme et ce qui est un vrai motif de satisfaction pour nous, hein, pour moi aussi personnellement. Mais ça c'est vraiment très 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 agréable d'être sur cette dynamique là. Il y a, comme le disait Camille à l'instant, il y a des filières qui sont plus présentes. Les gens dans les arts du spectacle, par exemple, forcément, c'est aussi l'occasion pour eux de franchir aussi une autre étape dans leur démarche, dans leur travail, dans leur future carrière éventuellement. Mais dans les gens qui viennent pour le soir de la nocturne, on a toutes les filières qui viennent. Et on va avoir inversement proportionné d'autres filières qui ne sont pas là pour assumer des médiations, pour assumer des vrais projets dans le cadre de la nocturne, mais qui vont venir le soir pour découvrir ce que les autres ont proposé. Bon, voilà, c'est vraiment très, très agréable aussi.
Ouais, du coup, c'est peut-être un moyen de remettre de la culture dans la vie étudiante, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues sur la vie étudiante et ce qu'elle peut être faite d'excès en tout genre, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la vie étudiante, c'est pas un excès de vie, de culture en tout cas. Et c'est super intéressant de créer des événements qui mêlent la vie étudiante à la culture. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai senti moi en voyant l'événement. Donc oui, peut-être qu'effectivement, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de ramener, de mêler vie étudiante et culture.
Et plaisir également.
Oui, bien sûr.
C'est important, tous les termes qu'on a pu utiliser jusqu'à présent, le partage, la médiation, le lien, voilà. Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs très, 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 très humaines dans toute cette aventure.
Merci à tous d'être venus parler de cette nocturne et de Merci. Toutes les belles choses qui sont prévues pour la semaine prochaine. C'était une émission dédiée à la nocturne. Nous vous rappelons qu'elle se tiendra le 27 mars à partir de 19h30 et soyez à l'heure. J'ai cru comprendre qu'une surprise nous était réservée. L'entrée est libre, gratuite et ouverte à tous, donc venez nombreux. C'est la fin de l'apérophonie, à très bientôt sur Radio Campus 90.8.
Quand ils marcheront sur ton corps, que ton nom sera mis à mort, je te trouverai. Quand les pies auront dépecé, les vautours rôderont autour, je te sauverai. Je te porterai sur mon dos, que tu ne sois plus méprisé, humilié. Je t'accueillerai chez moi, dans ce grand pays de droit, de liberté. Ils avaient chanté ton nom, ils te jugent pour des raisons qui m'indiffèrent. Bienvenue ici chez moi, je prendrai soin de toi, toi l'étranger. Quand je marcherai en paix, je te trouverai.
Tu poseras sur mon sein ta bouche pour lait de faim, je te nourrirai. Et comme l'amour te manque, je viendrai douce te prendre contre moi. Nous serons amis ce soir, il y a à manger, à boire et de la joie. Ils avaient chanté ton nom, ils te jugent pour des raisons qui m'indiffèrent. Bienvenue ici chez moi, je prendrai soin de toi, toi l'étranger. J'aurai conservé de ta bouche, de tes yeux, cet intense regard.
Et ton cri parviendra à celle qui voudrait s'échapper. Et ton cri parviendra à celle que l'on a possédée. Bienvenue.